Chapitre 16. Monsieur Floridor Verduron, l'armateur, à la vue de Sabine, recommença ses révérencieuses évolutions. La jeune fille lui rendit ses saluts en rougissant, car elle ne s'attendait pas à rencontrer un étranger dans le jardin. Le Goffin, songeant avec effroi que le secret de Cloarec allait être, d'un moment à l'autre, révélé en présence de Sabine, se résolut à un parti désespéré. Voulant à tout prix éloigner l'armateur, il l'interrompit au milieu de ses saluts et lui dit « Maintenant, monsieur Verduron, venez avec moi. Je vais vous conduire auprès de monsieur. » « Mais le Goffin, » dit Sabine, « vous ignorez donc que mon père est sorti ?»« Soyez tranquille, mademoiselle, je sais bien où le trouver. » Et se mettant en marche, le maître canonnier fit un signe de tête significatif à l'armateur en lui disant « Venez, venez. » « Monsieur ferait mieux d'attendre mon père ici, » reprit obligeamment la jeune fille. « Il m'a dit qu'il ne tarderait pas à rentrer. Vous risqueriez de vous croiser avec lui, le Goffin, et de faire ainsi à monsieur une promenade inutile. « Non, non, mademoiselle, soyez tranquille, il fait un temps superbe. Je sais un très joli petit chemin, et certainement votre père reviendra par là. » « Et s'il revient d'un autre côté, » dit Suzanne, parfaitement disposée en faveur de l'armateur par ses galanteries, « vous exposez, monsieur, à une course très fatigante. » « Mais encore une fois, » reprit le Goffin avec impatience, « je vous répète que... »« Mon brave, » dit M. Verduron en interrompant le maître canonnier, « tu conçois que je suis trop galant, ou plutôt trop égoïste, » ajouta-t-il avec un sourire coquet, « pour ne pas me rendre aux obligeantes observations de ces belles dames, mais attendre ici ce cher... »« Très bien !» s'écria vivement le Goffin. « Très bien, n'en parlons plus. Je croyais faire pour le mieux. » « Mais pendant que j'y pense, monsieur Verduron, » ajouta-t-il en se reculant assez loin de Sabine et de Suzanne et faisant signe à l'armateur de venir auprès de lui, « écoutez-moi donc. J'ai quelque chose de particulier à vous communiquer. »« Ah ça, mon brave, » reprit l'armateur en s'éladonnant, « tu veux donc absolument m'éloigner de ces belles dames. C'est donc un complot que tu trames contre ma satisfaction. »« Parole d'honneur, monsieur Verduron, » s'écria le Goffin, craignant de voir cette nouvelle tentative inutile. « J'ai quelque chose de très important à vous dire. Je ne vous demande que 2 minutes. »« 2 minutes, vous l'entendez, belle dame ?» reprit en riant l'armateur. « Il ne demande que cela. Comme si 2 minutes passées loin d'une si aimable société n'étaient pas 2 siècles. »« Ah, monsieur !» dit Suzanne, enchantée de cette nouvelle gracieuseté. « C'est trop aimable. »« Vous le voyez, mon pauvre le Goffin ?» dit à son tour Sabine, qui commençait à trouver M. Verduron fort amusant, « il faut vous résigner. »« Mais, monsieur, » s'écria le maître canonnier, véritablement alarmé, « je vous dis, moi, qu'il faut que je vous parle en secret, à l'instant même. » M. Verduron tenait beaucoup trop à coqueter auprès des deux femmes pour se rendre au désir de le Goffin, désir dont il ne pouvait d'ailleurs soupçonner l'importance. Aussi lui répondit-il du ton le plus folâtre. « Allons, mon brave, ne prends pas cette grosse et terrible voix. Tu ferais peur à ces belles dames. Je te promets une audience particulière lorsqu'elles nous priveront de leur aimable présence. »« Eh bien, alors écoutez au moins que je vous dise, » s'écria le malheureux le Goffin, poussé à bout, en s'approchant pour parler bas à l'armateur. Mais celui-ci se recula et dit en riant aux éclats, « se chuchoter à l'oreille devant des dames. » « Ah ça, tu me prends donc pour un mal appris, pour un sauvage, pour un cannibale. Ah décidément, belle dame, ce gaillard-là veut me perdre dans votre esprit. »« Oh, c'est que vous ne connaissez sans doute pas l'entêtement de monsieur le Goffin, » ajouta Suzanne. « Quand il a quelque chose dans la tête, il est impossible de le faire changer d'idée. » Le maître canonnier ne répondit rien et se rapprocha des 3 personnages avec la physionomie d'un homme qui s'abandonne à toutes les chances d'une position désespérée. Ainsi, reprit galamment l'armateur en s'adressant à Sabine, c'est à mademoiselle Cloarec que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur, répondit la jeune fille, et vous êtes sans doute un des amis de mon père. Il n'en a pas de plus dévoué que moi, mademoiselle, et je serais bien ingrat s'il n'en était autrement, je lui dois tant. « Mon père a donc été assez heureux pour vous rendre quelques services, monsieur. »« Quelques services, mademoiselle. Il a fait ma fortune, rien que cela. »« Votre fortune, » reprit Sabine avec surprise. « Et comment donc, monsieur ?»« Mais, ma belle demoiselle, c'est tout simplement le... »« Oui, mademoiselle, se hâta de dire le Goffin en interrompant l'armateur. « C'est pour le compte de monsieur que votre digne père s'est mis tant de fois en voyage, en course. »«
C'est la vérité, mademoiselle, » répondit l'armateur. « Et chaque course m'amenait presque toujours une riche aubaine.
Mais la meilleure aubaine que je devrais à votre cher père aura été celle de pouvoir vous présenter mes hommages, ma belle demoiselle. »
Pendant que Sabine répondait de son mieux aux galanteries surannées de monsieur Verduron, le Goffin, avançant la tête entre Sabine et Suzanne, leur dit tout bas
« C'est un gros fabricant. Nous placions ses étoffes dans nos voyages et ça l'a énormément enrichi. »
« Alors, monsieur, reprit Sabine, vous êtes à moitié coupable des inquiétudes que me causait chaque absence de mon père. »
« Et Dieu sait, monsieur, combien mademoiselle était peu raisonnable à ce sujet-là, » ajouta Suzanne.
« Figurez-vous qu'elle était alors dans des transes continuelles, comme si son digne père avait eu à courir le moindre danger. »
L'armateur, regardant à son tour Suzanne avec ébahissement, lui dit
« Quelque danger, ah ça. Vous croyez donc, belle dame, que… »«
Mais non, c'est étonnant, »
s'empressa de dire le Goffin, en interrompant encore M. Verduron avec une excessive volubilité.
« C'est étonnant comme on s'abuse sur certaines choses. On s'imagine que tout est rose dans notre métier, et parce qu'il rapporte beaucoup, on croit qu'il n'y a qu'à se baisser et en prendre, comme si nous ne rencontrions jamais de pratiques récalcitrantes, mais, comme dit le proverbe, à corsaire, corsaire et demi. Car souvent nous avons affaire à des marchands, qui, avec leur air bonasse, nous donne fièrement du fil à retordre.
C'est la vérité, ma belle demoiselle, dit l'armateur à Sabine. On n'a pas idée comme ces gaillards-là ont souvent la mine trompeuse.
Aussi, répondit la jeune fille en souriant, ne faut-il pas se fier aux apparences?
Voilà donc, reprit ironiquement Suzanne, voilà donc à quoi se bornent les grands dangers dont M. Le Goffin vient de nous parler d'un air si matamor.
Ma foi, belle dame, il n'a pas tort. Et je vous assure que le dernier combat…
Un combat ? Dit vivement la jeune fille en interrompant l'armateur et le regardant avec stupéfaction.
Un combat ?
Comment ?
Reprit à son tour Suzanne, non moins stupéfaite.
Un combat ? De quel combat parlez-vous, monsieur ?
D'un combat, d'une lutte à outrance,
reprit le Goffin en coupant encore la parole à l'armateur.
D'une lutte désespérée entre nous et un scélérat d'acheteur qui ne trouvait pas nos rouenneries de son goût.
Mais M. Clorec et moi nous l'avons si bien endoctriné qu'il nous a pris nos 100 dernières pièces d'étoffe et…
Ah ça, belle dame, que diable nous chante-t-il là avec ses rouenneries et ses ballots ?
Dit M. Verduron, qui plusieurs fois avait en vain tenté d'interrompre le Goffin.
Voyons, perdez-vous la tête, mon brave.
Comment ? Je perds la tête ?
S'écria le Goffin d'une voix tenante. Et changeant soudain de physionomie, il s'avança sur M. Verduron et lui dit d'un ton menaçant
« Vous me traitez de fou, vieux drôle que vous êtes ?»
Le fait est que le maître canonnier, se voyant à bout de ressources imaginatives et désespérant de pouvoir soutenir plus longtemps cette conversation à double entente, venait de se résoudre un moyen héroïque pour tâcher de sauver le secret de son maître. Aussi, profitant alors du silence de stupeur où restait l'armateur, tout étourdi de ce brusque changement de manière, le Goffin reprit d'une voix plus éclatante encore
« Oui, vous êtes un insolent, monsieur Verduron, et si vous m'échauffez les oreilles, je vous secouerai les vôtres. »
« Le Goffin ? » s'écria Sabine, toute tremblante. « Au nom du ciel, que dites-vous ? »
« Comment ? » s'écria enfin l'armateur. « Tu as l'audace de me traiter ainsi devant ces dames ? »
« Emmenez vite, mademoiselle. » dit tout bas le Goffin à Suzanne. « Ça va devenir affreux. Elle aura une crise. Vite, vite, emmenez-la. »
Puis, faisant de nouveau quelques pas à l'encontre de l'armateur, il ajouta, en le forçant de reculer jusqu'au parapet du saut de loup,
« Vieux papillon poudré à la bergamote, je ne sais ce qui m'empêche de te faire faire le plongeon dans ce fossé !»
Et il prit au collet M. Verduron, qui s'écria en tâchant en vain de se dégager.
« Mais ce malheureux est devenu fou allié. A-t-on vu pareil forcené? À qui en a-t-il ? »
« Au nom de Dieu, emmenez donc mademoiselle. Ça lui sera désobligeant de voir plonger ce vieux drôle. »
reprit le Goffin en s'adressant à la gouvernante. Celle-ci n'avait pas entendu le conseil du maître canonnier pour tenter de reconduire Sabine chez elle, en la voyant pâlir et trembler de tous ses membres à cette scène de violence. Mais la jeune fille, malgré son effroi et les prières de sa gouvernante, ne voulut pas s'éloigner, regardant comme une lâcheté de laisser un ami de son père en butte au mauvais traitement du commis.
Aussi, se dégageant de l'étreinte de Suzanne, elle se rapprocha des deux hommes et, indignée, s'écria « Le Goffin, votre conduite est déplorable. Au nom de mon père, je vous ordonne de mettre un terme à un pareil scandale. »
« Au secours, il m'étrangle !»
murmurait d'une voix affaiblie M. Floridor Verduron, acculé au parapet du saut de loup.
« Ah, vieux misérable, le capitaine te... »
Ce dernier mot, le capitaine, prononcé d'un accent si étouffé qu'heureusement Sabine n'entendit pas, fut la condamnation de l'armateur. Le Goffin saisit M. Verduron à bras-le-corps, le renversa brusquement en arrière, par-dessus le parapet élevé de 3 pieds au plus, et les deux lutteurs, tombant sur le talus gazonné, roulèrent jusqu'au fond du saut de loup, sans se faire d'ailleurs le moindre mal, tandis que Sabine, ne pouvant plus maîtriser l'épouvante dont la frappait ce dernier incident, s'évanouissait entre les bras de Suzanne.
« Thérèse, au secours! Mademoiselle se trouve mal !» cria la gouvernante. « Au secours !»
La jeune servante accourut bientôt, et avec son aide, Sabine fut transportée dans la maison. Cet appel de secours, adressé par la gouvernante à Thérèse, était arrivé aux oreilles de Le Goffin, alors étendu au fond du saut de loup et tenant sous lui l'armateur qui commençait à sortir du premier étourdissement causé par la rapidité rotatoire de sa chute. « Mademoiselle Sabine se trouve mal, il n'y a plus rien à craindre. Notre secret est sauvé, » se dit Le Goffin. S'asseyant alors sur le revers du talus, le maître canonnier se mit à contempler avec un flegme imperturbable M. Floridor Verduron. Celui-ci, suant, haletant, soufflant, décoiffé, dépoudré, débraillé, se releva péniblement et s'adossa, encore tout chancelant, au mur du saut de loup. La surprise, la colère de l'armateur était telle qu'il ne put d'abord trouver une parole. Ses joues se gonflaient et se dégonflaient tour à tour selon les aspirations de sa poitrine oppressée par la fureur. Mais, s'il était muet, son regard parlait et semblait vouloir foudroyer Le Goffin. Celui-ci, profitant de ce silence, dit à l'armateur avec un accent de bonhomie parfaite, et comme s'il continuait paisiblement un entretien, « Maintenant, mon digne monsieur Verduron, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai prié de me suivre dans ce petit réduit écarté. « Misérable !» s'écria l'armateur, exaspéré par le sang-froid du maître canonnier. « Osez m'injurier, portez la main sur moi !»«
Dame, c'est votre faute, mon bon monsieur Verduron !»«
Quelle audace ! Je vous ai demandé un moment d'entretien pour affaires particulières. Vous m'avez refusé. Il m'a bien fallu manœuvrer de façon à obtenir de vous la commodité du colloque intime dont nous jouissons en ce moment. »«
Bien, bien, ajoute la raillerie à la violence. Le capitaine me fera justice de toi, vieux bandit !»
s'écria l'armateur avec une rage concentrée. Puis, avisant la pente rapide du talus, il ajouta
« Je ne pourrai jamais, gros comme je suis, remonter là-haut. Je serai obligé d'appeler au secours, de demander une échelle, ou de me faire hisser avec des cordes. Ah, misérable Le Goffin, me mettre dans cette position d'un ridicule atroce, et devant des dames encore !»
Le maître canonnier s'était plu, pendant un moment, à savourer son triomphe, se disant avec complaisance qu'il n'avait pas manqué d'adresse pour sortir du très mauvais pas. Mais cette glorieuse satisfaction assouvie, il dit, sérieusement cette fois, à l'armateur.
« Tenez, monsieur Verduron, je vous demande excuse de ce que j'ai fait, mais sur l'honneur, j'y ai été forcé.
Comment ? Tu oses encore ? Écoutez-moi donc. Monsieur Cloarec avait jusqu'ici, pour de graves motifs, caché à sa fille qu'il était corsaire et qu'il faisait la course. »
« Il serait vrai ?»
s'écria l'armateur en passant de la colère à la surprise. « C'est donc pour cela qu'il m'avait caché son véritable nom et sa résidence que j'ai eu tant de peine à découvrir ?»«
Justement. »
Et afin de pouvoir s'absenter d'ici de temps à autre, il donnait pour prétexte à sa fille qu'il faisait la commission des rouenneries et autres marchandises.
« Est-il possible ?»«
Aussi, vous comprenez mon embarras et ma crainte quand je vous ai tombé ici comme une bombe. »
« C'était donc pour me prier de garder le secret, que je voulais vous parler en particulier. »«
Je n'en reviens pas. »«
Quel bonheur de n'avoir pas compromis le secret du capitaine. Il ne me l'eût jamais pardonné. » »«
Maintenant que je me rappelle cet entretien à double entente, je comprends tout. » »«
Mais comme c'était marcher sur des charbons ardents ou sur des lames de rasoir que de continuer une conversation pareille,
j'ai pris le parti de vous introduire au fond de ce seau de loup, afin de vous éloigner de Mademoiselle Cloarec et de sa gouvernante. Le moyen était brutal, mais ce qui est fait est fait. »
Le Goffin, je te pardonne, dit M. Verduron avec magnanimité. Je reconnais même que tu n'as pas manqué d'adresse, car...
L'entretien des interlocuteurs souterrains fut interrompu par un bruit de pas précipité et par la voix de M. Cloarec qui s'écriait
« Où cela? Où sont-ils ?»«
Hélas, mon Dieu, ils sont tombés tous deux dans le seau de loup, monsieur !»
répondait la voix de Thérèse. Bientôt Yvon apparut au-dessus du parapet. À la vue de son armateur, il resta frappé de stupeur. Puis, songeant que la présence de M. Verduron pouvait compromettre un secret qu'il avait tant intérêt à garder, il s'écria en pâlissant de crainte et de colère.
« Malédiction! Vous ici, monsieur, vous avez osé !»
En trois bonds, le Goffin, encore fort agile, malgré sa boiterie, gravit le talus rapide et vint dire à Cloarec
« Monsieur Yvon, rassurez-vous, Mademoiselle Sabine et Suzanne ignorent tout. »
« Ah, merci Dieu !» dit Cloarec, soulagé d'une appréhension terrible.
« Je respire. Ma fille ne sait rien. »